débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre débat sur RFI. Nous évoquons ce soir une affaire qui fait grand bruit en France. Le week-end dernier, la presse révélait les primes qui accompagneront le départ du patron français Michel Combes du groupe Alcatel-Lucent. Primes qui devraient s'élever, selon le journal du dimanche, à 13,7 millions d'euros sur 3 ans. Cela équivaut à 218 années de travail d'un employé moyen du groupe. De quoi provoquer un vif émoi en France. Le gouvernement rapidement est monté au créneau pour dénoncer de telles pratiques. Seulement voilà, aujourd'hui, rien n'empêche Michel Combes de toucher ce jackpot-là. Alors, que doit faire l'État ? Peut-il rester impuissant face à ce type de dérive, qui plus est dans un contexte économique difficile ? Nous lançons le débat sur RFI. Et nos invités en studio ce soir, Corinne Narasiguin, porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Thierry Philippona, président du Forum pour l'investissement responsable, membre du collège de l'AMF qui est l'autorité des marchés financiers. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour bien camper le décor, je dois préciser qu'une loi fixe un plafond aux rémunérations des dirigeants d'entreprises publiques. En revanche, pour ce qui est du privé, ce sont les actionnaires qui ont la main. Du coup, début 2013, le président français François Hollande avait promis une loi étendant la régulation au secteur privé. Ça n'a pas été fait. Corinne Narasiguin, vous qui êtes porte-parole du Parti Socialiste, pourquoi le président n'a pas agi comme il s'y était engagé ?
En 2013, effectivement, il y a eu un débat au sein du gouvernement et la décision a été prise de laisser la place à une révision, à un renforcement de ce qu'on appelle le code AFEP-MEDEF, qui est le code de gouvernance pour
code
les grandes
entreprises.
Voilà, de code de bonne conduite pour les grandes entreprises qui font partie des organisations patronales AFEP-MEDEF. Et donc, il y a eu une négociation entre le gouvernement et ces organisations patronales avec des conditions minimum qui avaient été posées en termes de contrôle, notamment en termes de contrôle des rémunérations, de représentation des salariés dans les comités de rémunération de ces grandes entreprises. Et d'ailleurs, ça a touché la question de la régulation, des bonus d'arrivée, des bonus de départ, des questions de contrats de non-concurrence, des retraites complémentaires qu'on appelle les parachutes dorés. On avait choisi de laisser une chance à l'autorégulation. Maintenant,
autorégulation parce que ce code de bonne conduite, il faut le préciser, est piloté par le patronat.
Oui, voilà. Et donc ça, je pense que ça, c'est une spécificité française qui, clairement, aujourd'hui, on voit bien, est un problème. Et
pourquoi l'État n'a pas la main là-dessus ?
Donc je pense que il y a des législations très différentes selon les pays, mais bon, il s'agit de marchés financiers, d'entreprises privées, et donc c'est très difficile pour l'État de réguler tout par la loi en ce qui concerne la gestion de ces entreprises. Maintenant, il est possible de poser des limites. Et donc, on voit aujourd'hui ce nouveau code à 2 ans aujourd'hui. Donc on voit bien ou bien il est insuffisant ou bien il est mal appliqué. Il faut savoir que l'adhésion à ce code est volontaire, donc ça c'est un autre problème. Donc le fait d'avoir un code qui est rédigé par les organisations patronales, c'est un conflit d'intérêt majeur, et le fait qu'il n'y ait pas d'obligation de suivre ce code, c'est aussi un autre problème. Donc je pense que c'est pour cela que la question législative aujourd'hui doit être mise sur la table.
Thierry Philippona, Corinne Narasiguin nous dit que voilà, on doit se poser la question quelle limite aujourd'hui doit être fixée dans le privé par l'État. Qu'en pensez-vous ? Quelles doivent être ces limites ?
Je pense qu'il y a un choix qui a été fait en ayant ce code qu'on peut qualifier de droit souple. C'est toujours l'éternel débat, ce genre de question, entre le droit souple et le droit dur. Et le droit souple a été privilégié, ou autrement dit, l'autorégulation. Ce qui est intéressant, à la suite de cette affaire qui est franchement scandaleuse à beaucoup d'égards, j'ai envie de dire moralement, mais surtout parce qu'elle est destructrice d'un lien économique et d'un lien social où il y a une confiance réciproque. Mais ce qui est très intéressant à la suite de cette affaire, c'est d'abord, alors ce sont des paroles, mais c'est important les paroles, qu'on a le vice-président du MEDEF, Thibault Langsade, qui dit que la rémunération, les sommes attribuées sont choquantes, d'accord ? Donc quand même, on cadre le débat.
Ce sont des mots, est-ce que le MEDEF peut agir ?
Justement, ce sont des mots, c'est le début. Après ça, le Haut Comité de gouvernance d'entreprise, qui est une instance du MEDEF, AFEP-MEDEF, va statuer et va dire si ce qui s'est passé est conforme au code AFEP-MEDEF ou pas.
Est-ce qu'on peut imaginer le MEDEF statuer contre finalement ses patrons ?
J'ai pas envie de faire de procès d'intention à qui que ce soit, et pas plus au MEDEF qu'aux autres, mais ça va être très intéressant de voir la réponse. Parce que de deux choses l'une, soit la réponse est c'est conforme, soit la réponse est ce n'est pas conforme. S'il dit c'est conforme, on a clairement un problème du fait que ce code n'est pas suffisant.
Et là, ce n'est pas d'abord à l'État français de faire ce genre de choses.
Justement, j'ai envie de dire, quand on a un... Je fais une analyse froide. Quand on a un incident, ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'où ça vient. Et donc, de cette réponse, on pourra vraiment tirer la conclusion de... Si c'est conforme, ça veut dire que le code n'est pas suffisant. Si c'est pas conforme, il faudra en tirer les conséquences et réagir sur le cas d'espèce.
Corinne Marassiguin, l'initiative doit venir du patronat ?
Je pense qu'il faut travailler avec eux, mais aujourd'hui, parce qu'on a laissé l'espace au patronat en 2013 et que clairement ils ne sont pas au rendez-vous, maintenant il faut aussi mettre sur la table. Je pense que y a une réflexion qu'il faut avoir. Il ne faut pas agir dans la précipitation. Le but c'est d'être efficace. Mais donc je pense qu'il ne faut pas, il faut pas évacuer toutes les solutions possibles et donc la solution d'en passer aussi par une loi, de trouver un meilleur point d'équilibre entre la loi et le code. Je pense que l'idée c'est pas de remplacer le code par la loi. Je pense qu'il faut trouver un bon équilibre. Équilibre entre les deux, parce qu'on sait bien que la loi, on va pas changer la loi tous les ans, on va pas les marchés économiques et financiers évoluent. La loi, elle doit être pérenne, elle doit fixer un cadre, elle doit fixer des limites.
Vous demandez là ce soir que finalement le gouvernement et le patronat travaillent main dans la main pour édicter une future loi encadrant les rémunérations des grands patrons dans le privé.
Le Parti socialiste travaille actuellement à faire des propositions. Donc je peux pas vous dire aujourd'hui quelles sont précisément ces propositions, mais Jean-Christophe Cambadélis a déjà mis sur la table le fait que il fallait envisager une possibilité de légiférer et même éventuellement pour pouvoir légiférer efficacement, de même de modifier la Constitution, parce qu'aujourd'hui on peut pas utiliser le critère de la taille de l'entreprise dans une loi. Je pense que toutes ces questions seront examinées. On fera des propositions très précises au gouvernement sur des solutions concrètes. Et je pense que à titre personnel, je pense que l'exemple qui peut être intéressant d'examiner, c'est l'exemple britannique sur la question de l'équilibre entre la loi et le code.
En France, est-ce qu'on risque pas d'arriver à un dialogue de sourds ? Parce que vous citiez Michel Sapin, moi j'ai cité Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Cette semaine, il a déclaré, je cite, « Le patronat nous demande de ne pas intervenir sur le plan législatif ». Donc ça veut dire que voilà, malgré le fait qu'on soit dans un état de droit, c'est le patronat qui fixe les règles.
Mais Jean-Marie Le Guen a aussi dit lui-même, a été même le premier membre du gouvernement à mettre sur la table la question d'avoir des mesures plus dures. Et donc de suggérer que la question législative devait être mise sur la table. Il est bien évident que la FEP et le MEDEF ne veulent pas passer par la loi. Mais je pense que après c'est le travail des partis, c'est le travail des parlementaires, c'est le travail du gouvernement de trouver la meilleure solution.
Thierry Philipponat, pensez-vous justement voilà que le gouvernement et le patronat peuvent travailler main dans la main pour ériger une loi ensemble ?
Pour commencer à répondre à votre question, je me permettrai de mettre une nuance par rapport à ce que Madame Narciguin a dit il y a quelques minutes. Je pense qu'il est trop tôt sur cette affaire pour dire le patronat n'est pas au rendez-vous.
C'est l'émotion qui prime.
Qu'il y ait une émotion, je suis le premier à l'avoir au sens de... Et c'est plus qu'une émotion, c'est une conviction, encore une fois, qu'on est... Ce genre d'affaire est destructrice du lien social et du lien économique. Et en tant que telle, elle n'est pas acceptable ni pour l'entreprise, ni pour la société, ni pour les actionnaires, pour personne. Et c'est pour ça que c'est important, et c'est pour ça que le Forum pour l'investissement responsable, qui travaille sur les sujets de gouvernance, la gouvernance c'est ça, et qui considère qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre toutes les parties prenantes pour que le système économique et donc social fonctionne, s'intéresse à ce genre de sujet. Donc ça, c'est le contexte. Après ça, on a un code. D'accord. Et je me permets de revenir à ce que je disais tout à l'heure. On va voir la conclusion qu'on en tire. Et on pourra dire qu'il n'est pas au rendez-vous si on dit, en fait c'était conforme au code, mais on veut surtout pas le changer. Alors là, si on dit c'est conforme au code, il n'y a pas de problème, mais on va pas le changer, là, invitez-moi dans 3 semaines et peut-être que je dirai ça. Ce soir, je ne sais pas. Je pense que c'est très important dans ce type d'affaires d'être constructif pour aller jusqu'au bout. Parce que des gens qui ne suivent pas les règles, qui trichent, il y en a toujours et partout. Donc le sujet, c'est vraiment d'être à ce niveau-là.
Alors vous reveniez sur l'initiative du MEDEF, mais il y a aussi l'AMF. Vous êtes membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers, il faut le rappeler. L'AMF qui a annoncé qu'elle examinait de possibles irrégularités. C'était une annonce importante cette semaine, irrégularité dans les conditions de départ de Michel Combes. Le président de l'AMF a déclaré qu'il cherchait à savoir s'il y avait des éléments de droit pour critiquer le départ de Michel Combes. Où en est-on sur cette procédure-là et que peut-on en attendre ? C'est comme le MEDEF, voilà, soit ils vont juger si c'est conforme ou c'est pas conforme.
L'AMF, c'est un régulateur. Un régulateur, c'est chargé d'appliquer le droit. Donc c'est ce que dit Gérard Rameix, président de l'AMF. L'AMF va regarder s'il y a eu des irrégularités, autrement dit, si ce qui s'est passé était conforme au droit. Mais évidemment, le fait que ça soit conforme au droit ou pas ne préjuge pas du fait que le droit est parfait. Donc après ça, il y a le débat de savoir si le droit doit être réformé. Mais c'est à deux niveaux. Et l'AMF, elle est au niveau, c'est pas elle qui dit le droit, c'est elle qui l'applique. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après ça, il y a une autre chose qu'a dit Gérard Rameix qui est très importante, parce que là, on est plus dans l'appréciation, j'ai presque envie de dire philosophique. Gérard Rameix a déclaré, et je suis fier d'appartenir à une instance dont le président peut dire ça, c'est que les réponses d'Alcatel-Lucent à la lettre de l'AMF sur le sujet étaient peu convaincantes, tant en termes de gouvernance, voire sur le plan juridique. Autrement dit, il y a un jugement de dire, au-delà du droit, on a quand même un problème de cohérence du système qui doit respecter des équilibres. Quand vous voyez, je ne préjuge pas l'interprétation sur le code AFEP-MEDEF, mais quand vous voyez qu'on a une clause de non-concurrence qui vaut X millions, qui est signée alors que la personne en question sait où elle va aller et que son nouveau contrat de travail est déjà conclu, voilà, ça n'a pas de sens. Une clause de non-concurrence ou une clause de performance, ça se fixe a priori et pas a posteriori, et puis après ça, on l'applique ou on l'applique pas.
Cette question de la clause, oui, cette question de la clause de clause en concurrence, justement, le fait qu'elle ait été renégociée en cours de route, alors que on savait que Michel compétait sur le départ, je crois que ça c'est quelque chose qui est insuffisant. Il y a une insuffisance claire dans le code AFEP-MEDEF aujourd'hui, et on verra effectivement ce que sera la décision du haut comité de suivi de l'AFEP-MEDEF sur l'application de ce code. Mais même s'il décide que s'il trouve que ça n'est pas conforme avec le code, qui effectivement est devenu plus restrictif, je ne suis pas certaine des conséquences pratiques que cela aura, parce que il y aura une obligation pour l'entreprise de soumettre peut-être une nouvelle solution par le comité de rémunération, mais le vote de l'assemblée générale des actionnaires n'est pas contraignant. Il manque tout de même de contraintes. C'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que il y a d'autres pays comme les Pays-Bas et plus récemment le Royaume-Uni sont passés par des votes contraignants de l'Assemblée Générale par rapport aux questions de rémunération. Ils sont pas des pays qui sont particulièrement connus pour être anticapitalistes. Donc je pense qu'on peut trouver des solutions raisonnables. La France est quand même un des pays où en fait le droit est le moins contraignant sur ces questions.
On a l'impression que le droit est peu contraignant et que finalement toute cette question des rémunérations des hauts patrons, finalement il n'y a aucune règle, hein, parce que voilà, quand Alcatel-Lucent par exemple a été racheté par le Finlandais Nokia au mois d'avril, Michel Combes avait annoncé qu'il renoncerait à ses primes de départ, car selon lui les conditions n'étaient pas réunies. Pourquoi les règles ont-elles été changées en quelques mois finalement, Thierry Philipponard?
Là il y a deux débats. Il y a le fait d'annoncer quelque chose et de ne pas le faire. Et là, je vais reciter à nouveau le président de l'AMF qui dit que l'AMF va vérifier si l'information donnée n'était pas trompeuse ou mensongère. Ce qui, dans le vocabulaire AMF, est pas du tout une plaisanterie. Parce que si une information financière est trompeuse ou mensongère, on en tire les conséquences. Je ne dis pas qu'elle l'était, je dis que l'AMF va vérifier et c'est très important. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est le fait que il y a des règles, notamment, par exemple, il y a une règle dans le code AFEP-MEDEF qui dit que l'attribution définitive d'une rémunération variable doit être préalable et selon des règles préétablies. Voilà. Si c'est préalable et préétabli, au-delà de la question du montant, on peut se dire, il y a présomption que, voilà, un contrat de droit privé entre des parties qui l'ont choisi. Mais quand les règles, quand ce genre de disposition est prise a posteriori ou à la fin, quand on signe un contrat de non-concurrence qui vaut des millions alors qu'on sait où on va, quand on a une clause de performance sur des années, notamment 2016-2017, et puis on s'en va en 2015 et on touche l'argent qu'on aurait peut-être touché en 2016-2017, on n'est pas dans le préétabli et la rigueur. Et donc, c'est là que se pose la question.
Thierry Philipponard, vous justement, qui êtes président du Forum pour l'investissement responsable, est-ce qu'on a finalement là deux logiques qui s'opposent, la logique économique et la logique sociale? Parce que le Philippe Camus, le président du conseil d'administration d'Alcatel-Lucent, a bien précisé qu'il ne s'agissait pas de prime de départ, il s'agit de rémunérer, dit-il, une performance. Effectivement, dans les 13,7 millions d'euros que devrait toucher Michel Combes, plus de 8 millions devraient provenir d'actions octroyées pour sa seule performance. Donc ça veut dire que finalement, seule la logique économique justifie le parachute doré, Parce qu'il faut rappeler que sous la présidence de Michel Combes, au bout de quelques mois, il y a un vaste plan social qui a été mené, qui a conduit à la suppression de 10 000 postes dans le monde. Est-ce qu'on n'a pas finalement deux logiques qui s'opposent là et qui créent ce point de friction aujourd'hui ?
Il y a deux logiques, j'ai envie de dire, qui peuvent s'opposer. La conviction des praticiens de l'investissement responsable et de l'investissement socialement responsable sur lequel travaille le Forum pour l'investissement responsable, c'est précisément que ces deux logiques doivent se compléter, se nourrir mutuellement, et qu'il n'y a pas de bonne économie sans prise en compte du social, et il n'y a pas d'harmonie sociale sans une économie qui fonctionne. Et donc les deux doivent se nourrir. Après ça, certaines personnes sont beaucoup plus cyniques et froides et disent « moi ce qui m'intéresse, c'est mon intérêt purement économique à très court terme ». Nous, notre conviction, c'est qu'il faut rentrer dans le moyen long terme et que l'un ne peut pas aller de façon pérenne sans l'autre.
Corinne Narasinghe.
Je suis bien sûr tout à fait d'accord avec ça, et j'ajouterais même la question de la responsabilité environnementale aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour cela, avec la loi Florange en 2014, qu'on a instauré le droit de vote double pour les actionnaires qui ont en titre nominatif, qui ont détient des actions depuis plus de 2 ans, parce que l'idée est de favoriser l'influence des actionnaires de long terme dans une entreprise, parce que le but est d'avoir des personnes qui sont intéressés sur la performance à long terme, à la réussite à long terme de l'entreprise, et pas uniquement sur des résultats spéculatifs boursiers sur le prochain trimestre. Et donc ça, c'est très important. Mais je pense que on pose aussi la question aujourd'hui, que ce soit à travers la loi ou à travers le code, j'ai pas nécessairement de réponse aujourd'hui là-dessus, mais sur la question aussi de l'évaluation des performances d'un dirigeant par rapport à des critères qui soient pas uniquement financiers, qui soient pas uniquement sur le cours de la bourse de l'entreprise, mais qui soient aussi sur les conséquences sociales de ces décisions et les conséquences environnementales de ces décisions.
L'État va en prendre compte à l'avenir ?
Il y a déjà des règles qui existent
Vous évoquiez
sur le social et l'environnemental, mais il n'y a pas de contraintes par rapport à ça aujourd'hui qui sont assez fortes.
Il va y en avoir, parce que vous évoquez les discussions actuellement entre le gouvernement et le patronat. Il y a cette dimension qui va être prise en compte, la dimension sociale.
C'est clairement une dimension que le Parti socialiste veut mettre sur la table. Il existe déjà des règles. Hein, il existe déjà des règles sur l'économique et le social qui doivent être prises en compte dans les rapports d'activité des entreprises. Mais c'est pas suffisamment contraignant. On estime que la publicité de ce qu'ils font devrait suffire à les réguler. Or, on voit bien que ça n'est pas suffisant. Donc, il faudrait aussi réfléchir peut-être à des règles plus contraignantes par rapport à ces questions.
Est-ce qu'il n'y a pas finalement une peur de légiférer de l'État français en raison du risque finalement de voir ses patrons quitter la France?
Je crois que c'est pour cela qu'il y a un bon équilibre à trouver, parce que c'est effectivement, on peut effectivement poser la question de la possibilité pour des grandes entreprises de déménager leur siège social, mais en réalité, dans des pays qui ont établi des règles plus strictes, on n'a pas vu ces déménagements, et en réalité aussi, il y a peu de dirigeants qui sont débauchés de l'étranger pour diriger des entreprises françaises. Il y en a très très peu.
Et Thierry Philipona.
Une autre dimension à prendre en compte, c'est qu'il y a une directive européenne qui va s'appeler appliquée à toute l'Union européenne, qui est actuellement en cours de finalisation, actuellement étant cette année, qui s'appelle la directive sur le droit des actionnaires, d'accord, qui va notamment prévoir que les actionnaires auront un pouvoir contraignant en assemblée générale pour fixer les mécanismes et les schémas de rémunération de leurs dirigeants. Donc cette directive, le temps qu'elle soit finalisée, négociée et implémentée dans le droit local de chaque pays européen, rentrera en vigueur en 2018. Alors on peut dire 2018 c'est loin, mais c'est pas si loin que ça. Ça veut dire qu'à partir de 2018, si le texte est voté en l'état, les actionnaires, la démocratie actionnariale, l'assemblée générale, aura un pouvoir contraignant au niveau européen sur les schémas de rémunération de ses dirigeants. C'est quelque chose de très important.
Il n'aura donc plus un pouvoir illimité comme c'est le cas aujourd'hui.
En tout cas, les actionnaires contrôleront. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est là aussi que quand on raisonne, faut-il légiférer en France, il faut aussi s'inscrire dans la dynamique européenne qui est incontournable parce que nous faisons partie de l'Union européenne.
Merci Thierry Philipona, président du Forum pour l'investissement responsable, membre également du Collège de l'autorité des marchés financiers. Merci à vous Corinne Narasinghe, porte-parole du Parti socialiste, d'avoir participé à ce débat qui est maintenant terminé. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.rfi.fr.